Compréhension de l'oral, niveau fondamental. Sujet numéro 1. Vous allez écouter 3 documents sonores. Vous avez une minute pour lire les titres. Document numéro 1.
Choisir un séjour linguistique pour ses enfants. Nous questionnons aujourd'hui à Christina Gers, rédactrice en chef du site vivrealetranger.com. Pourquoi d'abord, Christina, le marché des séjours linguistiques est-il si difficile à évaluer?
Déjà parce que ce marché regroupe un nombre très important de prestataires. On en compte environ 300, d'où une certaine opacité. Et ensuite, parce qu'il y a un problème d'évaluation pour ce type de séjour, car les critères des parents, avec pour objectif numéro 1 l'apprentissage d'une langue, n'est pas le même que celui de l'ado, qui a plutôt envie de s'amuser. Bref, si l'ado a passé un bon séjour, s'il s'est bien amusé, il se fichera un peu de savoir si les promesses commerciales en matière de niveau linguistique ont été tenues ou pas.
Document numéro 2.
On le savait depuis un certain temps, les langues étrangères, c'est bon, c'est même très bon pour le cerveau. Plusieurs expériences sont venues en attester ces dernières semaines, notamment une étude publiée dans le Journal of Neurolinguistics. On a donné des cours de chinois à une quarantaine d'étudiants strictement anglophones. Et au bout de 6 semaines, on a comparé leur fonction cérébrale à un groupe test. Encore une fois, on sait que l'apprentissage d'un langage sollicite le cerveau, notamment la zone du striatum ventral. Je vous en reparlerai dans un instant. Et que c'est une excellente gymnastique pour entretenir les facultés cognitives. Ce que révèle cette enquête précisément, c'est que dans le cerveau de ces étudiants qui ont appris le chinois, de nouveaux réseaux neuronaux, de nouvelles connexions se sont créées. Connexions qui permettent par la suite à ces étudiants de réagir plus vite, de mieux intégrer les différents apprentissages. Bref, apprendre une langue, c'est un peu comme rajouter des circuits dans le cerveau. C'est quand même comme booster la machine.
Document numéro 3.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui aujourd'hui s'est installée à Besançon, une belle ville de l'Est de la France avec une belle université des lettres et un beau CLA. Le CLA, c'est le Centre de Linguistique Appliquée, une école qui est liée à l'université, un institut où l'on enseigne les langues et où on enseigne en particulier le français, ce qu'on appelle le français langue étrangère, le français qui est enseigné par des professeurs qui souvent ne sont pas français et qui est enseigné hors de France à des gens dont le français n'est pas la langue maternelle. Alors, l'été, il y a un certain nombre de professeurs qui viennent à Besançon, qui viennent au CLA pour se familiariser avec de nouvelles techniques, de nouvelles didactiques, de nouvelles façons d'enseigner. J'en ai rencontré quelques-uns pour savoir justement à quoi correspondait l'enseignement du français dans leur pays respectif.
Document numéro 1, deuxième écoute.
choisir un séjour linguistique pour ses enfants. Nous questions aujourd'hui à Christina Gers, rédactrice en chef du site vivrealetranger.com. Pourquoi d'abord, Christina, le marché des séjours linguistiques est-il si difficile à évaluer?
Déjà parce que ce marché regroupe un nombre très important de prestataires. On en compte environ 300, d'où une certaine opacité. Et ensuite, parce qu'il y a un problème d'évaluation pour ce type de séjour, car les critères des parents, avec pour objectif numéro un l'apprentissage d'une langue, n'est pas le même que celui de l'ado, qui a plutôt envie de s'amuser. Bref, si l'ado a passé un bon séjour, s'il s'est bien amusé, il se fichera un peu de savoir si les promesses commerciales en matière de niveau linguistique ont été tenues ou pas.
Document numéro 2, deuxième écoute.
On le savait depuis un certain temps, les langues étrangères, c'est bon, c'est même très bon pour le cerveau. Plusieurs expériences sont venues en attester ces dernières semaines, notamment une étude publiée dans le Journal of Neurolinguistics. On a donné des cours de chinois à une quarantaine d'étudiants strictement anglophones. Et au bout de 6 semaines, on a comparé leur fonction cérébrale à un groupe test. Encore une fois, on sait que l'apprentissage d'un langage sollicite le cerveau, notamment la zone du striatum ventral. Je vous en reparlerai dans un instant. Et que c'est une excellente gymnastique pour entretenir les facultés cognitives. Ce que révèle cette enquête précisément, c'est que dans le cerveau de ces étudiants qui ont appris le chinois, de nouveaux réseaux neuronaux, de nouvelles connexions se sont créées. Connexions qui permettent par la suite à ces étudiants de réagir plus vite, de mieux intégrer les différents apprentissages. Bref, apprendre une langue, c'est un peu comme rajouter des circuits dans le cerveau. C'est quand même comme booster la machine.
Document numéro 3, deuxième écoute.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui aujourd'hui s'est installée à Besançon, une belle ville de l'Est de la France avec une belle université des lettres et un beau CLA. Le CLA, c'est le Centre de Linguistique Appliquée, une école qui est liée à l'université, un institut où l'on enseigne les langues et où on enseigne en particulier le français, ce qu'on appelle le français langue étrangère, le français qui est enseigné par des professeurs qui souvent ne sont pas français et qui est enseigné hors de France à des gens dont le français n'est pas la langue maternelle. Alors, l'été, il y a un certain nombre de professeurs qui viennent à Besançon, qui viennent au CLA pour se familiariser avec de nouvelles techniques, de nouvelles didactiques, de nouvelles façons d'enseigner. J'en ai rencontré quelques-uns pour savoir justement à quoi correspondait l'enseignement du français dans leur pays respectif.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 2. Document sonore. Première écoute.
Le Zoom ce matin à des airs de contes modernes. Il était une fois une jeune fille de 14 ans qui voulait aider des réfugiés. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Vous nous emmenez à Lavigné, village de 120 habitants en Haute-Saône.
Et je vous présente Pia. Ne vous fiez pas à sa gracilité, à sa jeunesse. L'adolescente bouillonne d'une saine révolte.
Je regardais la télévision avec mes grands-parents et c'était à la reportage sur les migrants qui venaient d'arriver en Grèce. Et de les regarder juste comme ça et d'avoir ce sentiment d'impuissance, et ben ça pesait sur moi et je voulais faire quelque chose. C'était pas normal de regarder ça et de rien faire pour moi.
Sauf que ses parents, Marie-Paul et Alexandre, sont pris au dépourvu par la volonté d'action de leur fille.
Au début, on a dit mais non, Pia, sois raisonnable, c'est pas possible, il y en a d'autres qui savent le faire, on habite trop loin, enfin bref, on arrivait toujours à trouver plein d'excuses. Après, on s'est un peu fâché en disant t'arrêtes sur ce sujet-là.
Un jour, Pia elle répond mais les migrants, ils n'ont pas choisi le moment où ils se déplaçaient, quoi. Et je crois que ça a fait tilt.
En plus, voilà, dans notre quotidien, nous, on a toujours aussi montré que la transformation des choses, elle nous appartient. Donc, c'est aussi, on l'a transmis à nos enfants.
Elle avait fait les démarches toute seule. On s'est dit, bon, bah voilà, il faut qu'on l'accompagne. Voilà, elle va au bout des choses, quoi.
Parce que Pia, effectivement, n'attend même pas le feu vert de ses parents. En même temps qu'elle prend contact par mail avec la pastorale des migrants à Besançon, notamment, elle agit sur le terrain.
Pour donner du courage un petit peu à ma maman, j'ai pris mon petit stylo, mon petite feuille et puis je suis allée toquer à la porte de nos amis qui sont souvent d'accord avec nos projets. Je suis allée poser mes questions. Est-ce que vous êtes prêts à libérer une chambre pour les réfugiés? Est-ce que vous êtes prêts à leur accorder du temps? Est-ce que vous êtes prêts? Peut-être même juste un repas, mais c'était quand même quelque chose. Étape par étape et on a réussi.
Cette jeune fille a donc convaincu les adultes que ça n'était pas si compliqué d'ouvrir sa porte.
Tout à fait. Un collectif d'une douzaine de voisins est né pour construire un accueil à plusieurs. Et 4 mois plus tard...
Là, par exemple...
C'est un gâteau,
hein? Oui, c'est un gâteau. On a chanté le...
Des photos, des vidéos souvenirs pour Julia, albanaise, en attente de papier pour rester en France. Elle a passé un précieux week-end, puis une précieuse semaine de vacances de Pâques à Lavigné avec ses 3 fils, Juliano, Orgues et Alex.
À 7h, les enfants sortent pour aller à l'école, collège, tout ça. Ils mangent à la cantine tous les 3. Et comme ça, je vois pas beaucoup les enfants. Et pour cette vacance, j'avais la possibilité de rester toute la semaine avec eux, et pour moi c'était vraiment chouette.
Edith mesure combien ces moments-là sont importants pour elle, compris elle héberge Julia et ses enfants depuis septembre dans son F3 à Besançon.
Les vacances proposées par Pia et par d'autres, les week-ends, tout ça, c'est vrai que c'est très important pour nous qui accueillons dans la durée, parce que on peut pas inventer quelque chose tous les week-ends. Moi, je travaille des fois le week-end, on a notre vie à côté, quoi. Donc c'est très très important. Et qu'ils reviennent, ils sont heureux. Enfin, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire quelque chose pour toutes ces familles qui sont là.
Disons-le, Edith est épatée par l'initiative de Pia qui peut montrer la voie à d'autres familles. Elle a fait du bien à tout le monde, reconnaît fièrement le papa de cette adolescente altruiste. Elle nous a bousculés, ajoute Marie-Pascale, la maman.
Ce qui m'a le plus touchée, c'est voilà, puis elle disait, mais on les considère plus comme des hommes. Et à un moment donné, on se dit, mais oui, c'est vrai, il ne faut pas non plus qu'on soit habité toujours par la peur de l'autre, parce que c'est des choses qui vont nous paralyser, enfin, on va en crever de cette peur de l'autre. Sans sa persévérance, on n'aurait pas passé le pas, quoi.
Pia, elle n'a qu'un regret, que ses copines de classe ne comprennent pas sa démarche.
On m'a dit que j'étais un camp de réfugiés. On me dit, ouais, t'es réfugiée, pourquoi ils viennent? Pourquoi ils ont des iPhones? Pourquoi les Albanais, ils viennent en France? Et ça m'énerve. Et du coup, je parle plus et du coup, j'ai choisi d'agir. Même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, je fais pour moi ce qui me paraît bien.
Et vous ne serez pas très étonné d'apprendre que Pia envisage de devenir avocate spécialisée dans le droit des étrangers.
Vous nous rappelez son âge ?
14 ans.
À 14 ans. Merci. Merci beaucoup Béatrice Duguay pour ce Zoom, ce reportage. Il est 7h20 sur Inter.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Le Zoom ce matin a des airs de conte moderne. Il était une fois une jeune fille de 14 ans qui voulait aider des réfugiés. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Vous nous emmenez à Lavigné, village de 120 habitants en Haute-Saône.
Et je vous présente Pia. Ne vous fiez pas à sa gracilité, à sa jeunesse. L'adolescente bouillonne d'une saine révolte.
Je regardais la télévision avec mes grands-parents et c'était à la reportage sur les migrants qui venaient d'arriver en Grèce. Et de les regarder juste comme ça et d'avoir ce sentiment d'impuissance, et ben, ça pesait sur moi et je voulais faire quelque chose. C'était pas normal de regarder ça et de rien faire pour moi.
Sauf que ses parents, Marie-Paul et Alexandre, sont pris au dépourvu par la volonté d'action de leur fille.
Au début, on a dit mais non, Pia, sois raisonnable, c'est pas possible, il y en a d'autres qui savent le faire, on habite trop loin, enfin bref, on arrivait toujours à trouver plein d'excuses. Après, on s'est un peu fâché en disant t'arrêtes sur ce sujet-là.
Un jour, Pia elle répond mais les migrants, ils n'ont pas choisi le moment où ils se déplaçaient, quoi. Et je crois que ça a fait tilt.
En plus, voilà, dans notre quotidien, nous, on a toujours aussi montré que la transformation des choses, elle nous appartient. Donc, c'est aussi, on l'a transmis à nos enfants.
Elle avait fait les démarches toute seule. On s'est dit, bon, ben voilà, il faut qu'on l'accompagne. Voilà, elle va au bout des choses, quoi.
Parce que Pia, effectivement, n'attend même pas le feu vert de ses parents. En même temps qu'elle prend contact par mail avec la pastorale des migrants à Besançon, notamment, elle agit sur le terrain.
Pour donner du courage un petit peu à ma maman, j'ai pris mon petit stylo, mon petite feuille et puis je suis allée toquer à la porte de nos amis qui sont souvent d'accord avec nos projets. Je suis allée poser mes questions. Est-ce que vous êtes prêts à libérer une chambre pour les réfugiés? Est-ce que vous êtes prêts à leur accorder du temps? Est-ce que vous êtes prêts? Peut-être même juste un repas, mais c'était quand même quelque chose. Étape par étape et on a réussi.
Cette jeune fille a donc convaincu les adultes que ça n'était pas si compliqué d'ouvrir sa porte.
Tout à fait, un collectif d'une douzaine de voisins est né pour construire un accueil à plusieurs. Et 4 mois plus tard...
Là, par exemple...
C'est un gâteau, non ?
Oui, c'est un gâteau. On a chanté le...
Des photos, des vidéos souvenirs pour Julia, albanaise, en attente de papier pour rester en France. Elle a passé un précieux week-end, puis une précieuse semaine de vacances de Pâques à Lavigné avec ses 3 fils, Juliano, Orgues et Alex.
À 7h, les enfants ils sortent pour aller à l'école, collège, tout ça. Ils mangent à la cantine, tous les 3. Et comme ça, je vois pas beaucoup les enfants. Et pour cette vacance, j'avais la possibilité de rester toute la semaine avec eux, et pour moi c'était vraiment chouette.
Edith mesure combien ces moments-là sont importants pour elle, compris elle héberge Julia et ses enfants depuis septembre dans son F3 à Besançon.
Les vacances proposées par Pia et par d'autres, les week-ends, tout ça, c'est vrai que c'est très important pour nous qui accueillons dans la durée, parce que on peut pas inventer quelque chose tous les week-ends. Moi, je travaille des fois le week-end, on a notre vie à côté, quoi. Donc c'est très très important, et qu'ils reviennent, ils sont heureux. Enfin, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire quelque chose pour toutes ces familles qui sont là.
Disons-le, Edith est épatée par l'initiative de Pia qui peut montrer la voie à d'autres familles. Elle a fait du bien à tout le monde, reconnaît fièrement le papa de cette adolescente altruiste. Elle nous a bousculés, ajoute Marie-Pascale, la maman.
Ce qui m'a le plus touchée, c'est voilà, puis elle disait, mais on les considère plus comme des hommes. Et à un moment donné, on se dit, mais oui, c'est vrai, il ne faut pas non plus qu'on soit habité toujours par la peur de l'autre, parce que c'est des choses qui vont nous paralyser. Enfin, on va en crever de cette peur de l'autre. Sans sa persévérance, on n'aurait pas passé le pas, quoi.
Pia, elle n'a qu'un regret, que ses copines de classe ne comprennent pas sa démarche.
On m'a dit que j'étais un camp de réfugiés. On me dit, ouais, t'es réfugié, pourquoi ils viennent? Pourquoi ils ont des iPhones? Pourquoi les Albanais, ils viennent en France? Et ça m'énerve. Et du coup, je parle plus et du coup, j'ai choisi d'agir. Même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, je fais pour moi ce qui me paraît bien.
Et vous ne serez pas très étonné d'apprendre que Pia envisage de devenir avocate spécialisée dans le droit des étrangers.
Vous nous rappelez son âge ?
14 ans.
Ah, 14 ans. Merci. Merci beaucoup Béatrice Duguay pour ce Zoom, ce reportage. Il est 7h20 sur Inter.
Sujet numéro 3. Vous avez 1 minute 30 secondes pour lire les consignes. Sujet numéro 3, document sonore, première écoute.
À vous, bonjour Christine.
Bonjour.
Donc vous nous parlez aujourd'hui d'applications qui font un carton auprès des jeunes, applications d'écriture, de lecture avec des millions d'abonnés à la clé.
Oui, les adolescentes et les adolescents aiment lire, aiment écrire, il serait bon une fois pour toutes qu'on cesse de penser le contraire. La preuve par la prolifération d'applications qui ressemblent à des sortes de Facebook de la littérature. Scribe par exemple, qui propose à chacun de publier ses textes, de les partager, de lire les histoires des autres, de les commenter. Vous pouvez même participer à des défis du genre « Je suis un muffin » ou « Il était une fois une loutre ». Et vous avez 20 jours pour publier un texte sous ce thème-là. C'est quand même plus stimulant qu'un sujet de bac du genre « Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ?» Non, c'est sûr, « Je suis un muffin ». C'est plus créatif. Les adolescents qui aiment écrire en raffolent, comme par exemple cette jeune fille qui, sous le pseudo Miss Machin, écrit « Ras-le-bol des profs de français qui se contentent des... » mal dit, très rouge, point d'interrogation, je veux des vrais conseils. Alors cette communauté permet de se donner des conseils, de donner son avis et chacun peut modifier ses textes au fil des remarques. Le but est donc de se stimuler, de créer une sorte d'émulation littéraire. Ici, le concept est surtout destiné à ceux qui écrivent. Mais il y a des applications comme Wattpad qui vont au-delà du club de lecture ou de l'atelier d'écriture virtuelle. Wattpad, c'est carrément une grosse machine d'édition.
C'est même une application qui est devenue incontournable, on peut le dire, pour les adolescents qui aiment lire. Alors, est-ce que c'est une application pour des lecteurs ou pour des auteurs ?
10% d'auteurs, 90% de lecteurs. Enfin, je devrais dire lectrices, hein, parce que ce sont majoritairement des adolescentes qui sont branchées sur Wattpad, branchées via leur téléphone portable. Ça veut dire que lorsque vous voyez dans le bus ou le métro une jeune sur son téléphone, c'est pas forcément qu'elle joue à un jeu débile ou qu'elle est sur Twitter. Cette adolescente est peut-être en train de lire un roman sur son téléphone, une histoire gratuite de milliers de pages postée par un auteur inconnu, lue par des millions d'autres. C'est assez passionnant de se perdre dans cette application Wattpad parce que ça raconte les besoins des ados, leurs passions et leurs boulot. Limite de lecture.
Qu'est-ce que vous entendez par besoin ?
Besoin de ne pas être contrôlé par ses parents dans sa lecture, besoin qu'on écrive avec leurs mots, leurs références culturelles et aussi leurs fautes, faute de syntaxe, faute de frappe, faute d'orthographe, ça peut faire mal aux yeux. Mais les ados sur Wattpad s'en fichent, ce qu'ils veulent ce sont des histoires et pas des histoires qu'on vous oblige à lire à l'école parce que Zola, Balzac ou Flaubert, ça fait moyennement rêver.
Ouais.
Sujet numéro 3, document sonore, deuxième écoute.
À vous. Bonjour Christine.
Bonjour.
Donc vous nous parlez aujourd'hui d'applications qui font un carton auprès des jeunes. Applications d'écriture, de lecture avec des millions d'abonnés à la clé.
Oui, les adolescentes et les adolescents aiment lire, aiment écrire. Il serait bon une fois pour toutes qu'on cesse de penser le contraire. La preuve par la prolifération d'applications qui ressemblent à des sortes de Facebook de la littérature. Scribe par exemple, qui propose à chacun de publier ses textes, de les partager, de lire les histoires des autres, de les commenter. Vous pouvez même participer à des défis du genre « Je suis un muffin » ou « Il était une fois une loutre ». Et vous avez 20 jours pour publier un texte sous ce thème-là. C'est quand même plus stimulant qu'un sujet de bac du genre « Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ?» Non, c'est sûr, « Je suis un muffin ». C'est plus créatif. Les adolescents qui aiment écrire en raffolent, comme par exemple cette jeune fille qui, sous le pseudo « Miss Machin », écrit « Ras-le-bol des profs de français qui se contentent des... » mal dit, très rouge, point d'interrogation, je veux des vrais conseils. Alors cette communauté permet de se donner des conseils, de donner son avis et chacun peut modifier ses textes au fil des remarques. Le but est donc de se stimuler, de créer une sorte d'émulation littéraire. Ici, le concept est surtout destiné à ceux qui écrivent. Mais il y a des applications comme Wattpad qui vont au-delà du club de lecture ou de l'atelier d'écriture virtuelle. Wattpad, c'est carrément une grosse machine d'édition.
C'est même une application qui est devenue incontournable, on peut le dire, pour les adolescents qui aiment lire. Alors, est-ce que c'est une application pour des lecteurs ou pour des auteurs ?
10% d'auteurs, 90% de lecteurs. Enfin, je devrais dire lectrices, hein, parce que ce sont majoritairement des adolescentes qui sont branchées sur Wattpad, branchées via leur téléphone portable. Ça veut dire que lorsque vous voyez dans le bus ou le métro une jeune sur son téléphone, c'est pas forcément qu'elle joue à un jeu débile ou qu'elle est sur Twitter. Cette adolescente est peut-être en train de lire un roman sur son téléphone, une histoire gratuite de milliers de pages postée par un auteur inconnu, lue par des millions d'autres. C'est assez passionnant de se perdre dans cette application Wattpad parce que ça raconte les besoins des ados, leur passion et leur boulimie. De lecture.
Qu'est-ce que vous entendez par besoin ?
Besoin de ne pas être contrôlé par ses parents dans sa lecture, besoin qu'on écrive avec leurs mots, leurs références culturelles et aussi leurs fautes, fautes de syntaxe, fautes de frappe, fautes d'orthographe, ça peut faire mal aux yeux. Mais les ados sur Wattpad s'en fichent, ce qu'ils veulent ce sont des histoires et pas des histoires qu'on vous oblige à lire à l'école parce que Zola, Balzac ou Flaubert, ça fait moyennement rêver.
Ouais.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.